Il est 7h45, bonjour Baptiste Tupin.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
L'invité de Matin Première est le président des engagés Yvan Broekstraat.
Oui, ils sont partis à valider cette nuit le plan d'économie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils étaient pourtant des milliers hier à contester le contenu de ce fameux décret programme 2 sous les fenêtres du Parlement. Prof, direction, syndicats dans la rue, les engagés ont-ils perdu leur lien historique avec le secteur scolaire? Comment défendent-ils aujourd'hui ces mesures? Comment faire pour renouer le dialogue? Et l'enseignement est loin d'être le seul défi, le seul dilemme pour le parti d'Yvan Broekstraat.
5h, 10h, Matin Première.
Bonjour Yvan Broekstraat.
Bonjour.
Vous avez été personnellement visé hier, hein, hué, bousculé même par la foule des manifestants devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quoi le sentiment qui domine chez vous ce matin ?
Sentiment par rapport à ça, c'est que c'est un sentiment de tristesse de voir quelque part le pays se fracturer. Je crois que c'est notre responsabilité à tous et c'est une question qu'on doit se poser, c'est de voir comment est-ce qu'on va continuer à faire société aujourd'hui et demain, faire société tout en tenant compte de la réalité budgétaire qui s'impose à nous, qui nous oblige à prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour pérenniser l'enseignement et un enseignement de qualité qui nous tient, qui nous est chevillé au cœur. Mais qui, pour lequel on doit pouvoir faire des efforts importants, et c'est ce que nous avons voulu décider et assumer nos responsabilités à cet égard.
Vous condamnez ou vous comprenez ces mobilisations, ce qui s'est passé hier dans les rues de Bruxelles, sous les fenêtres du Parlement ?
Je comprends la colère, mais je condamne les excès qui en découlent parfois et l'instrumentalisation qui a pu en être fait. Vous savez, je pense que l'école, et c'est ce que j'ai toujours appris de mes profs, et voilà, dont j'ai des souvenirs importants, c'est l'école, c'est d'abord la rationalité. C'est le débat d'idées, c'est la capacité de s'exprimer, d'argumenter sur le fond, de pas forcément être d'accord, mais de respecter aussi ce que la majorité décide, respecter aussi la démocratie, respecter aussi les faits. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sorti de ça. On est dans un débat d'émotion où l'émotion a pris le pas. Et je pense que ça, c'est dangereux.
Parce mais est-ce que vous n'avez pas sous-estimé cette émotion ? Est-ce que votre parti a bien pris la mesure de la colère ?
Vous savez, on n'a pas sous-estimé le fait que électoralement, c'eût été plus porteur de crier avec la meute ou de ne pas prendre des décisions comme d'autres ont évité de les prendre par le passé.
Mais vous reconnaissez qu'il y a un risque de perte électorale, de perdre des électeurs.
Oui, mais l'importance pour nous, c'est de rester crédible avec ce en quoi on croit. Vous savez, moi je réfléchissais ce matin comment je pouvais exprimer ça et je me dis, si vous êtes dans la jungle et que vous faites une traversée, vous êtes fatigué et puis qu'à un moment donné, vous arrivez devant un précipice, est-ce que vous préférez avoir un guide qui vous dit « Ah, je comprends que vous soyez fatigué, on va aller tout droit, c'est quand même trop injuste qu'il y ait un précipice devant vous » ou bien est-ce que vous préférez un guide qui vous dit « On va devoir faire un détour de 2 heures construire un pont et veiller à passer tous en sécurité cet obstacle. Aujourd'hui, on a des partis politiques qui, en hurlant et juste en travaillant sur la colère, vous font pousser, traverser ce précipice tout droit pour tomber dedans. Et ça, c'est un véritable danger.
Donc vous accusez l'opposition d'avoir attisé cette colère ?
Oui, c'est un fait. C'est un fait, on le sait. Ce sont des vidéos, y compris filmées depuis le Parlement, de gens qui ne respectent pas les règles, qui crient au sein du Parlement, qui sont envoyés directement au syndicat pour attiser la colère, pour montrer, regardez comme on est fort et comme on arrive à perturber le bon fonctionnement de ce Parlement. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on a... C'est une course entre, je sais pas, le PTB, écolo, le PS, parfois dans une moindre mesure.
Votre parti a été particulièrement ciblé ces derniers jours, ces dernières semaines. Une des députées de votre groupe, Les Engagés, s'est abstenue cette nuit de voter le décret programme 2. Il y a un malaise au sein de votre parti ?
Il n'y a pas de malaise, il y a une pression qui est réelle.
Il y a une division ?
Non, il n'y a pas de malaise ni de division. Il y a une pression qui est réelle et qui est très forte. Vous savez, quand c'est vos propres enfants qui se font insulter, quand c'est votre propre domicile qui se fait violer, quand c'est votre maison qui se fait taguer, quand vous faites hurler dessus à tort et à travers, c'est vrai que la pression est très forte. Et aujourd'hui, moi, je voudrais saluer, parce que je sais qu'il est de bon ton de critiquer les politiques, mais ce sont des hommes et des femmes. Et moi, j'ai vu 18 députés courageux toute la nuit, porter des décisions qui n'étaient pas faciles. Franchement, il aurait été plus facile pour eux de ne pas voter. Et ils ont maintenu...
Mais vous assumez toujours ces mesures.
Et on assume avec force parce qu'elles sont nécessaires. Elles ne sont pas agréables, mais elles sont nécessaires. Aujourd'hui, vous savez, c'est toujours une question d'équilibre. L'enseignement aujourd'hui, c'est un investissement important. Chaque travailleur wallon, bruxellois, cotise 500 euros en moyenne pour financer l'enseignement. À un moment donné, il faut être conscient de cette réalité, il faut pouvoir l'utiliser de la meilleure manière possible, il faut pouvoir le pérenniser, et il faut aussi pouvoir faire porter à chacun leur juste prix, et c'est ce qu'on a aussi fait, par exemple, avec le Minerval.
On lit beaucoup de témoignages d'enseignants qui disent « Moi, j'ai voté pour les engager aux élections précédentes, je ne le ferai plus ». Qu'est-ce que vous répondez à ces électeurs déçus ou qui expriment même un sentiment de trahison ?
Mais il n'y a pas de trahison. Et j'espère qu'à un moment donné, quand on pourra revenir justement dans le débat de la rationalité, ils se rendront compte que les mesures qui ont été prises, et c'est vrai qu'elles ne sont pas agréables, hein, 2 fois 50 minutes de plus, je comprends bien que ça puisse, enfin, cette frustration, et je ne serais pas non plus heureux de devoir les subir et d'autres mesures. Mais ce qui est important, si vous tenez à l'enseignement, c'est de veiller à ce que demain, il soit encore possible d'avoir un enseignement de qualité, le pérenniser et de revenir avec la trajectoire, une trajectoire correcte au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Donc, vous assumez sur le fond, sur la forme, sur la manière dont les choses ont été mises en œuvre, notamment ce délai qui n'a pas été respecté au Parlement, cette concertation ou ce défaut de concertation qui est dénoncé par certains acteurs, ça, vous l'assumez aussi ?
Écoutez, on a des différences et on a chacun sa manière d'approcher la réalité. Et avec notre partenaire, c'est vrai qu'on a parfois une autre manière de fonctionner. Mais je vois aussi combien la concertation peut être difficile et on l'a encore vu ces derniers jours. Et je me rappelle aussi de moments de concertation. On a voulu exprimer et on a exprimé avec les partenaires qu'il fallait faire des économies. On leur a demandé mais quel était le chemin ? Et par moment, la seule réponse qu'on en a reçue, c'était aucun. Et donc dans ce cadre-là, c'est difficile. Donc voilà, je crois qu'il faut pas trop se répandre sur le lait répandu. Mais notre volonté maintenant, c'est de rétablir le dialogue.
Oui. Et comment et moi, vous voulez rétablir ce dialogue ?
Dès les prochaines semaines, avec tous ceux et toutes celles qui veulent avoir un débat respectueux, un débat positif, simplement basé sur les faits. Je prendrai mon bâton de pèlerin, nous prendrons tous notre bâton de pèlerin pour renouer le dialogue. Parce que les enseignants, les enseignantes, les pouvoirs organisateurs, les directions, la réalité, c'est qu'on partage la même volonté, c'est-à-dire d'avoir un enseignement de qualité. Ce sont des femmes et des hommes qui sont extrêmement investis dans leurs fonctions.
Concrètement,
donc,
ça veut dire quoi ?
On va faire le tour de toutes les provinces pour expliquer.
Revoir certaines mesures.
Vous savez, jusqu'à la dernière minute, on ne l'a pas beaucoup entendu, mais jusqu'à la dernière minute, on a essayé d'écouter. On a essayé d'écouter et on savait qu'un des problèmes les plus importants, c'était que potentiellement de jeunes enseignants investis dans l'enseignement risqueraient peut-être de perdre une partie de leur charge. Jusqu'à dernière minute, on s'est battu pour adapter les choses. On a encore obtenu des modifications pour veiller à ce qu'il n'y ait personne de laisser au bord du chemin. Si ça, c'est pas écouter et tenir compte aussi...
Il y a une garantie d'emploi pour ces jeunes professeurs.
Exactement. Et donc, pour toute l'année 2026-2027, nous allons veiller à ce que tous les professeurs qui étaient déjà investis au service de nos enfants puissent continuer à garder leur charge. Donc ici, oui, il y a des mesures qui sont difficiles.
Et ça veut dire que les budgets seront débloqués éventuellement.
Et donc, nous allons débloquer. Nous avons prévu des enveloppes supplémentaires. Donc, nous n'allons pas faire les économies totales que nous avions prévues la première année, simplement pour se donner du temps au temps pour accompagner parce que nous nous rendons compte que c'est nécessaire et nous avons voulu jusqu'au bout essayer de tenir compte de ces différentes demandes. Nous l'avions déjà fait parce qu'il y avait déjà le gel des réfectations qui était une décision concertée par la ministre avec les organisations syndicales. Nous allons plus loin pour garantir à chacun que personne ne sera laissé au bord de la route. Donc c'est ça.
Et vous êtes sûr de votre calcul parce que les enseignants, les syndicats disent qu'il va y avoir 1300 pertes d'emplois, que c'est un risque.
Non, il y a une diminution de l'équivalent de 1300 équivalents temps plein parce qu'il y a une augmentation de ces 2 heures. Mais il y a 2200 équivalents temps plein qui sortent de l'enseignement secondaire supérieur chaque année. Il y en a 4000 postes qui sortent simplement par pension ou par fin d'engagement chaque année dans l'enseignement. Donc 1300 d'un côté. 2000 ou 4000 de l'autre, vous vous rendez bien compte qu'on arrive à compenser. Et il est vrai, par contre, que d'un point de vue local, à certains endroits, il est possible que ceux qui partent à la pension soient les profs de maths, alors que c'est les profs de français qui auraient perdu des heures et de la charge. Et c'est dans ces cas-là, ou pour ces cas-là, qu'on a décidé de développer une enveloppe supplémentaire pour garantir que ces profs de français ne soient pas abandonnés malgré tout. Et c'était important parce que ce sont des femmes et des hommes engagés, qui sont motivés. Ça serait un gâchis humain que nous ne voulons pas faire parce que c'est vraiment fondamental pour nous.
Tout ça doit maintenant être traduit sur le terrain par les directions. Comment éviter que ce ne soit pas le chaos ? Comment accompagner les directions dans l'organisation de cette rentrée qui approche ?
Moi, c'est à ça que j'appelle. Tous ceux qui aiment l'enseignement aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on voulait aller le plus vite possible, tous ceux qui aiment l'enseignement, qui tiennent à l'enseignement de nos enfants, doivent pouvoir se concerter, se focaliser sur l'organisation de la prochaine rentrée. Nous aussi, au niveau de l'administration, on a voulu aussi simplifier, limiter les tâches administratives. Donc, par exemple, tout ce qui est reporting de travail de collaboratif, on va le suspendre, on va essayer de mettre toute l'administration avec un helpdesk à disposition des professeurs, des directions. Maintenant, il faut qu'on prépare cette rentrée. On a des...
Il y a encore le temps pour ça ?
Il y a encore le temps, mais il faut vraiment s'y prendre maintenant. C'est une question de jour. Il
le
reste
syndicat
pas
répète ce matin que la mobilisation se poursuivra à la rentrée. Yvan Vroustra, qu'est-ce que vous leur dites
Écoutez, chacun fait son travail. Moi, je peux juste être à disposition, mettre le maximum d'énergie pour encadrer cette rentrée le plus positivement possible et appeler chacun et chacune à essayer d'y travailler pour que ça se passe au mieux. Évidemment, si on décide que ça se passe mal, ça pourra difficilement se passer bien. Mais si on veut protéger notre enseignement public, il faut que chacun puisse se remettre autour de la table pour le défendre, pour préparer cette rentrée.
Le climat n'est pas du tout à l'apaisement pour l'instant.
Non, mais vous savez, je pense que ça pourrait aussi se retourner. Moi, j'ai aussi rencontré beaucoup de professeurs qui ont d'abord et avant tout, comme nous, la volonté que ça se passe bien demain. Et donc, c'est vraiment vers cela que je pense qu'on doit tous aller, avec calme et sérénité.
Yvan Vroustra, vous êtes aussi député européen. Dans quelques semaines, un vote au Parlement européen va devoir permettre aux États de renvoyer des étrangers en situation irrégulière vers des hubs de retour situés en dehors de l'Union européenne. Comment vous vous positionnez dans ce débat ?
Moi, je suis à titre personnel, je suis très très clair. Je suis contre ce règlement retour. Je déplore qu'il ait été voté par le Parlement. Il le sera probablement à nouveau dans quelques
semaines. Et c'est le cas du reste de la majorité. Comment la Belgique va se positionner au Conseil européen ?
On est vraiment très très seul au sein du gouvernement et à nous tout seuls engagés, nous allons empêcher le gouvernement de pouvoir se prononcer de manière positive.
Sur les visites domiciliaires qui permettent donc à la police de rentrer dans le domicile d'un étranger en situation irrégulière pour exécuter un ordre de quitter le territoire. Là, vous avez marqué votre accord.
Là, ce qu'on a voulu faire, et on sait, ça fait aussi partie du règlement européen, des visites domiciliaires qui sont non encadrées et autorisées par l'Europe d'ici quelques semaines. Ce que nous avons voulu faire, c'est mettre des balises très très claires pour limiter, contrairement au règlement européen...
Mais malgré ces balises, il y a des craintes de toute une série d'acteurs de la justice qui redoutent qu'on bafoue un droit fondamental.
Et qui préféreraient qu'il n'y ait pas du tout de visite domiciliaire. Mais le droit européen s'applique directement chez nous. Les visites domiciliaires sont possibles, que ce soit en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg, en France, bref, dans tous les pays qui nous entourent. Moi aussi, personnellement, j'aurais préféré que ce règlement, cette décision n'arrive pas. Mais à partir du moment où elle s'impose à nous, autant veiller à ce qu'il y ait des balises strictes, encadrées par un juge d'instruction, dans des conditions, il faut que ça soit quelqu'un qui a un ordre de quitter le territoire, en dernier recours, de manière proportionnée, qui refuse de collaborer et qui représente un danger pour l'ordre public. Ces balises-là, elles n'existent pas dans le règlement européen. Nous les avons imposées à nos partenaires de majorité afin d'avoir un cadre strict et limitatif.
Yvan Vroustra, on est à la veille d'un exercice budgétaire important, difficile en Wallonie et au fédéral, avec des efforts à faire qui se chiffrent en milliards d'euros. Au niveau fédéral, il va falloir faire des choix difficiles. Où est-ce que vous voyez encore des marges budgétaires ? Où est-ce qu'on va trouver de l'argent ?
Je pense que, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises, la méthode des engagés, c'est pas de mettre des tabous et des lignes rouges qui rendent ensuite impossible d'arriver à un compromis. De nouveau, on a un devoir de responsabilité. Notre job n'est pas de mettre des difficultés ou de créer des difficultés, mais de trouver des solutions. Et donc, je pense qu'il faudra faire des efforts encore en dépenses, il faudra faire des efforts en fiscalité. Il faudra
aussi augmenter la TVA, par exemple, comme ça a été évoqué à un moment.
Personne n'aime les taxes. Personne se lève le matin en disant ça, c'est chouette, je vais me faire des amis et des électeurs en disant qu'on va devoir augmenter les taxes. Par contre, si on fait des taxes, il faut faire des taxes intelligentes. Et la TVA est une taxe plus intelligente que l'impôt sur le travail. La TVA, elle s'applique...
Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que le MR à ce niveau-là.
Mais non, parce que, mais j'en suis vraiment convaincu, intimement convaincu aussi de mon expérience dans le privé. La TVA, elle s'applique à tous les produits. Qu'ils aient été faits par Chine, Temu ou Amazon, qu'ils aient été fabriqués aux États-Unis ou ailleurs, et alors que la taxe sur le travail, eh ben, elle fait partir l'activité qui est d'ici. Or, on a besoin d'activité.
Donc 22% au lieu de 21%, c'est ce que vous prenez ce matin ?
Si on doit faire quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est plus intelligent que d'augmenter les taxes sur le travail, qui sont déjà très très élevées.
Pas mal de divergences entre vous et le MR, votre partenaire de majorité. La semaine dernière, il y a eu un incident au CA de la RTBF autour de la procédure de nomination du directeur de l'information. Votre parti a voté avec l'opposition, sans le maire. C'est un point de rupture avec les libéraux.
Non, ce n'est pas un point de rupture, c'est un point de cohérence par rapport à la manière dont la procédure devait se passer, par rapport à la procédure telle qu'elle avait été définie, et nous sommes restés en cohérence par rapport à ce qui avait été prévu. Et donc voilà, après, chacun a la liberté de se positionner comme il veut. Nous, nous devions être en cohérence par rapport aux règles de droit et par rapport à ce qui nous semblait juste, c'est ce que nous avons fait.
Mais en quelques secondes, quels sont les rapports avec le partenaire MR aujourd'hui, Yvan Vaugstraat ?
Eh bien, vous savez, on a des vraies différences. Mais le MR a cette capacité, et je pense que c'est aujourd'hui nécessaire pour ce pays, d'accepter des choix difficiles et de faire les réformes qui sont nécessaires. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons continuer à collaborer, même si nous avons des vraies différences et des vraies divergences.
Voilà qui est très clair. Merci beaucoup, Yvan Vaugstraat, président désengagé. Merci à vous, Baptiste Tupin.
Bonne journée.
Bonne journée.